Allez, on va accueillir comme il se doit Michel. Michel, bonjour et encore merci d'avoir décalé la chronique. On se retrouve habituellement le mercredi, donc vraiment encore merci. En chronique numéro 31. Alors, je vais vous laisser commencer cette chronique, mais on aura quelques félicitations à vous apporter également, mais j'en dis pas plus. Et puis on reparlera de constellations et galaxies. Mais là, pour commencer cette 31e chronique, vous allez nous parler de l'actualité.
Voilà, alors il n'y avait pas grand-chose dans les médias le mois passé concernant l'astronomie et la conquête spatiale, sauf bien sûr la sortie de Thomas Pesquet dans l'espace. Mais comme j'en avais déjà largement parlé en janvier, j'ai retenu des informations un peu plus discrètes. Lundi 20 mars, c'était une fête pour le premier anniversaire de la première détection des ondes gravitationnelles. Alors j'avais annoncé la nouvelle il y a un peu plus d'un an, car c'était le 11 février 2016 que des scientifiques américains avaient annoncé la première détection de ces ondes par le laboratoire LIGO. Enfin, je crois qu'en américain on dit plutôt LIGO. En fait, ils avaient retardé l'annonce pour faire de nombreuses vérifications afin d'être sûrs de leur coût, mais la détection s'était produite en septembre 2015. Alors, je rappelle que ces ondes qu'on peut grossièrement se représenter comme des ronds à la surface de l'eau, hein, ou encore mieux comme un son, c'est-à-dire une onde de compression de l'air, avaient été prédites par Albert Einstein un siècle plus tôt dans le cadre de sa théorie de la relativité générale. En effet, dans cette nouvelle théorie de la gravité, supplantant celle de Newton, les masses déforment l'espace-temps. Alors on prend souvent la représentation en deux dimensions d'un drap tendu sur lequel on pose une boule massive. Le drap va se creuser autour de la boule en forme d'entonnoir. Et si on lance une petite bille roulant sur le drap, au lieu d'aller tout droit comme elle le ferait sur une table bien plane, sa trajectoire s'incurverait en passant dans l'entonnoir jusqu'à peut-être se mettre à tourner autour de la grosse boule. C'est bien l'effet qu'on connaît de la gravité, mais sans faire appel à une sorte de force d'attraction un peu magique, comme dans la théorie de Newton, car agissant à distance, sans qu'on en connaisse vraiment la cause. Si on imagine pouvoir faire disparaître instantanément la grosse boule, le drap va se mettre à onduler. C'est une image de ce que sont les ondes gravitationnelles, une vibration de l'espace-temps. Le problème, c'est que même avec des phénomènes dégageant une énergie considérable, cette déformation est très faible, donc très difficile à détecter. Pour le faire, il faut des laboratoires très grands. Chaque site du LIGO comprend deux bras de 4 km de long à angle droit, dans lesquels circule un laser très puissant qui converge vers des détecteurs très sensibles pour mesurer par interférométrie de minuscules variations de la longueur des bras. Pour donner une idée, ce serait équivalent à mesurer la distance Terre-Lune avec une précision correspondant à l'épaisseur d'un atome. Avec une telle sensibilité, on détecte toutes sortes de vibrations infimes, hein, comme la circulation routière, des micro-séismes, des travaux miniers, etc. C'est pour ça que LIGO est composé de deux laboratoires séparés de presque 3000 km, car si on détecte la même vibration dans les deux, ça ne peut pas être dû à un phénomène parasite local. L'onde détectée, si on la transforme en son audible pour l'homme, produit une sorte de gazouillis. Alors je crois qu'on va pouvoir essayer de le faire passer à l'antenne. Peut-être deux fois, parce que c'est très court. Alors le phénomène à l'origine de cette onde est ce que les astrophysiciens appellent la coalescence de deux trous noirs, c'est-à-dire deux trous noirs très proches, tournant l'un autour de l'autre à grande vitesse et se rapprochant jusqu'à fusionner en un seul trou noir. L'événement s'est produit très loin dans le passé, à plus de 1 milliard d'années-lumière de nous, c'est-à-dire une galaxie très lointaine, et concernait des gros trous noirs d'environ 30 fois la masse de notre Soleil. Pendant la catastrophe, une masse énorme d'environ 8 fois le Soleil a été convertie en énergie, et on a entendu le bruit en moins d'une seconde à peu près, hein, donc c'est vraiment un phénomène colossal. Et notamment, donc, cette énergie sous forme des ondes gravitationnelles qui ont fini par atteindre la Terre environ 1 milliard d'années plus tard.
Revenons à l'anniversaire, si vous voulez bien, Michel.
Alors, pour l'occasion, le CNRS, hein, le Centre National de la Recherche Scientifique, avait organisé une grande fête publique lundi 20 mars avec une soirée au Grand Rex à Paris et une douzaine de villes en France, dont Bordeaux, et deux en Italie, car le laboratoire européen pour détecter ces ondes, appelé Virgo, est situé près de Pise. Tous les sites étaient reliés en vidéo pour partager certaines conférences et présentations, dont la visite virtuelle de Virgo, un site légèrement plus petit que LIGO américain, car ses bras ne font que, si je peux dire, 3 km de long. J'ai voulu revenir sur cette soirée pour reparler de la détection des ondes gravitationnelles, car cela ouvre un nouveau champ d'exploration du cosmos, mais aussi un petit peu égoïstement pour faire part aux auditeurs d'une petite satisfaction personnelle. Comme j'en avais parlé la dernière fois avec la publication de mes deux premiers bouquins, je suis auteur amateur de science-fiction, et comme le CNRS avait organisé un concours de BD de nouvelles pour cet anniversaire, j'avais proposé un petit texte, très court, car le règlement limitait à 12 000 caractères au maximum. Ça fait à peu près 7 pages, hein, d'un bouquin format livre de poche. Et lundi soir, lors de l'annonce en direct du palmarès, j'ai eu le plaisir de constater que ma petite nouvelle, intitulée « Agonie », avait été primée. Elle a reçu le coup de cœur du jury. Pour les auditeurs que ça pourrait intéresser de la lire, je l'ai mise ce week-end en téléchargement sur ma page Facebook. Mais attention, c'est la page de Herbert Prime Lynn, avec deux N, mon nom d'auteur, qu'il faut consulter. Alors je précise aussi que le règlement du CNRS imposait le thème « les ondes gravitationnelles » bien sûr, mais demandait aussi que tous les aspects scientifiques abordés dans le texte soient corrects, ce qui n'empêchait pas de faire jouer l'imagination pour ce qui se passerait dans le futur bien sûr.
Voilà, donc félicitations, hein, bien
merci.
Sûr. Hein. Là, je m'adresse pas à Michel, mais à Herbert.
D'accord.
Voilà, et puis en petite parenthèse, bien sûr, on va réitérer certaines de ces infos sur le Facebook. Allez, on revient sur votre chronique où on continue votre 31e chronique. Alors, toujours sur l'actu des tsunamis sur Mars. Des nouvelles,
voilà.
D'ailleurs.
Alors, ce n'est pas une information totalement nouvelle, car une annonce sur le sujet avait été faite par une équipe américaine en mai 2016, mais c'est maintenant confirmé par une équipe française, coordonnée par François Costard de l'Université de Paris-Sud, qui a présenté ses résultats lors d'un congrès de planétologie à Houston dans ce mois de mars. Au départ, il y a des images haute résolution de la surface de Mars prises il y a 10 ans par des sondes de la NASA et de l'ESA, sur lesquelles les scientifiques avaient remarqué des formations géologiques curieuses en forme de lobe. À la frontière entre les basses terres de l'hémisphère nord, où l'on situe un océan il y a à peu près 3,8 milliards d'années dans le passé, et le plateau plus élevé du sud, donc dans la région qui correspondrait à l'ancienne côte dans ce lointain passé. Après l'étude, la seule hypothèse valable sur ces formations serait la remontée d'une grosse quantité d'eau pénétrant largement dans les terres, donc un tsunami qui aurait déposé des débris et des sédiments en se retirant. Pour se donner une idée du phénomène, nos auditeurs peuvent se remémorer les images du tsunami japonais de 2011 ayant provoqué la catastrophe de Fukushima, c'était l'anniversaire le 11 mars, donc on a revu des documentaires à la télé. Sur les images aériennes, on voit bien l'inondation provenant d'un point bas de la côte et qui remonte sur des kilomètres en se répandant en forme de lobe. Après 2 ans d'études avec des géologues et en procédant à des simulations numériques avec des spécialistes des tsunamis et basées sur un relevé très précis du relief dans cette zone de la surface martienne, cette équipe démontre qu'il y a eu en fait 2 tsunamis géants qui ont pénétré jusqu'à 150 km dans les terres émergées en atteignant la côte. Leur origine serait la chute d'un astéroïde correspondant probablement au cratère Lomonosov de 130 km de diamètre situé à plus de 700 km de là. Pour faire simple, il y aurait eu un énorme splash, si je peux dire, déclenchant les vagues énormes, d'abord une de 120 mètres due directement au choc, puis une seconde quand l'océan a comblé la cavité creusée dans le plancher océanique et celle-là de 300 mètres de hauteur. Cela donne une idée du genre de catastrophe qui nous attend si un astéroïde tombait dans un de nos océans, qui, je le rappelle, couvre 3/4 de la surface de la Terre, donc un astéroïde a plus de chances de tomber dans l'eau que sur Terre. Le fait qu'il y ait eu un océan sur Mars dans le passé n'est pas nouveau, car les explorations par les sondes et les atterrisseurs avaient déjà permis de modéliser une planète ayant connu une période où elle était relativement semblable à la Terre, avec une atmosphère dense, permettant d'avoir une température de surface compatible avec la présence d'eau, donc des fleuves et un océan dont on retrouve aujourd'hui les traces géologiques. Mais cette étude apporte quelque chose de nouveau, car les tsunamis martiens sont datés d'environ 3 à 3,5 milliards d'années. Donc trop récent par rapport au modèle actuel selon lequel l'atmosphère aurait déjà dû être à cette époque-là trop faible et les températures de surface trop froides pour que l'océan existe encore. Il va donc sans doute falloir réviser la chronologie de l'évolution de Mars car l'océan semble avoir duré plus longtemps que ce qu'on croyait.
Alors toujours dans l'actu, une comète qui nous rend visite. Parlez-nous de cette petite visiteuse, Michel.
Voilà. Alors, bien que la plupart du temps, l'arrivée d'une comète dans le ciel soit un événement imprévisible qui surprend les astronomes, il y en a quelques-unes pour lesquelles on peut prédire à l'avance leur retour, car ce sont des comètes périodiques, c'est-à-dire que leur trajectoire forme une ellipse autour du Soleil, comme pour les planètes, mais beaucoup plus allongée, ce qui les fait repasser dans notre voisinage régulièrement après des périodes d'invisibilité, plus ou moins longues, souvent de plusieurs années ou dizaines d'années. La plus célèbre est la comète de Halley qui repasse tous les 76 ans environ. Elle avait fait très grosse impression en 1910, mais son passage en 1986 avait été plutôt décevant car elle était mal située par rapport à la Terre, presque à l'opposé de l'autre côté du Soleil. Son retour est prévu en 2061, mais je crois que cela ne me concerne pas vraiment, sauf si je vis plus que centenaire. Celle dont je veux parler aujourd'hui n'est connue que des astronomes, elle se nomme 41P. Le P veut dire périodique. Et son nom complet, c'est 41P Tuttle-Giacobini-Cresac, car elle a été découverte le 3 mai 1900, 1858 par Horace Pamel Tuttle, un astronome américain, puis redécouverte en 1907 par Michel Giacobini, un astronome français qui travaillait à l'observatoire de Nice, et encore en 1951 par Lubor Kresak, un astronome slovaque de l'université de Prague. Alors je pense qu'il est facile d'en déduire que cette comète nous revient presque tous les 50 ans, mais ce n'est pas le cas, car il se trouve qu'on ne l'a pas repérée à chaque fois qu'elle est passée. Elle a en réalité une période d'environ 5 ans et demi. Son noyau fait seulement 1 km 400, c'est-à-dire qu'il est 10 fois plus petit que celui de la comète de Halley, et son orbite allongée l'amène à peu près à la même distance du Soleil que la Terre quand elle est au plus près, ce qu'on appelle le périhélie, et il l'emporte 5 fois plus loin à son aphélie, c'est-à-dire presque aussi loin du Soleil que la planète Jupiter. Elle est connue pour des sursauts d'activité spectaculaires, ce que l'on nomme des outbursts en bon français, c'est-à-dire un brusque dégazage qui rend subitement sa queue plus grosse et dense, donc plus lumineuse. Par exemple, lors de son passage en 1973, où sa magnitude était montée à 4, la rendant parfaitement visible à l'œil nu dans le ciel. Si cela se reproduisait cette année, on pourrait en entendre parler bientôt dans les médias. Pour le moment, elle n'est visible que dans une paire de jumelles, et comme elle se rapproche de nous, elle devrait devenir de plus en plus grosse et lumineuse. Selon les prévisions du MPC, le Minor Planet Center, que j'ai consulté hier, sa période de luminosité maximum se situe début avril, entre le 4 et le 15, ce qui est logique car sa trajectoire l'amène au plus près de la Terre le 5 avril, à environ 22 millions de kilomètres de nous, quelques jours avant son passage au plus près du Soleil le 12 avril. C'est donc la période où elle sera à la fois la plus active, donc avec une chevelure plus dense et plus étendue, et plus éclairée par le Soleil, et plus proche de nous, donc plus grosse et plus lumineuse.
Alors comment l'observer justement ?
Alors bien entendu, il faut être dans un ciel bien noir de campagne pour l'observer, pas en pleine zone urbaine comme l'agglomération bordelaise. Sa magnitude calculée sans un outburst qui est toujours imprévisible serait d'environ 6,5, ce qui correspond à presque la perception de la limite de l'œil qu'on fixe généralement à 6 dans un ciel très noir de campagne ou de montagne. Bien qu'elle soit assez proche de la Terre à l'échelle astronomique, elle ne se déplace pas très vite dans le ciel, car les deux astres suivent des trajectoires plutôt parallèles. Si je peux me permettre une image un peu grossière, ce serait un peu comme si la Terre était une voiture roulant sur l'autoroute et que la comète se rapproche en entrant sur la bande d'accélération d'un échangeur. Sauf qu'étant plus rapide, c'est elle qui nous dépasse. En ce moment, elle se déplace d'environ 2 degrés par jour, c'est-à-dire la largeur d'un doigt vu bras tendu. Alors je mettrai des cartes en ligne sur notre site web, comme je le fais chaque mois dans le cadre de la rubrique Le Ciel du Mois, je pense demain, pour la situer jour après jour sur tout le mois, mais si on veut se faire une idée de sa position dans le ciel actuellement, voici quelques indications. Entre le 20 et le 25 mars, elle a traversé en diagonale le rectangle de la grande casserole, c'est-à-dire la partie de la grande ourse que tout le monde connaît. Elle poursuit dans la queue du dragon, ce sont les étoiles qui forment une ligne arquée entre la grande ourse et la petite ourse, qu'elle commencera à traverser demain, vendredi 1er avril, pratiquement dans le prolongement de la petite ours. Et elle poursuivra en direction de la tête du dragon qui forme un trapèze dans le ciel, qu'elle atteindra vers le 20 avril. En résumé, elle descend progressivement dans le ciel côté nord-est, et les conditions sont plutôt favorables pour l'observer en ce moment, car la grande ours monte déjà assez haut en début de nuit vers 22h. Alors il ne faut pas s'attendre à un grand spectacle. Dans des jumelles, elle apparaît actuellement comme une faible tache floue avec une nuance légèrement verdâtre, mais son augmentation de luminosité devrait lui permettre de devenir de plus en plus clairement visible dans les 15 prochains jours, avec peut-être le démarrage de sa queue. Quand on regarde avec des jumelles, c'est vers la droite qu'on devrait percevoir la queue en direction de la grande ourse. Bien entendu, le spectacle sera plus beau dans un télescope, par exemple à Socats, où le club astro girondin AG33 invite le public pour une observation samedi soir, 1er avril, et aussi le 15. Bien sûr, si la météo le permet, et je crains que malheureusement ce soit pas évident pour ce week-end. Pour ceux qui ont le matériel adéquat, il est assez facile de la photographier, et j'ai mis sur ma page Facebook, mais celle-là de Michel Favret, la photo que j'ai prise mercredi soir vers 23h.
On ira consulter, on partagera. Allez, toujours dans le cadre de votre chronique, le thème de ce mois-ci, les comètes. Alors rappelez-nous justement ce que sont les comètes.
Alors les comètes, ce sont des petits corps du système solaire, généralement de quelques kilomètres, donc minuscules par rapport aux planètes. J'avais déjà évoqué un autre type de petit objet, les astéroïdes, lors de la chronique de juillet 2016 intitulée « Quand le ciel nous tombe sur la tête », avec les cas de collision, comme par exemple il y a 65 millions d'années, ce qui avait provoqué la disparition des dinosaures. Il peut aussi arriver qu'une comète frappe la surface terrestre. D'ailleurs, il y a un cas bien connu qui est l'événement dit de la Tunguska en Sibérie. Le 30 juin 1908, vers 7 heures, les rares habitants de cette région presque désertique ont assisté à une énorme explosion dans le ciel, heureusement pour eux, située à plus de 60 km de leur village. L'enregistrement de l'onde de choc par les sismographes, équivalente à un séisme de magnitude 4,5, permet d'estimer que c'était plusieurs fois la puissance des bombes nucléaires d'Hiroshima et Nagasaki. L'origine de cette catastrophe était l'entrée dans notre atmosphère d'un objet estimé à environ 50 mètres de diamètre et 62 000 tonnes, qui aurait explosé à environ 5 à 10 km d'altitude. Les arbres ont été abattus sur une surface de 400 km² et la déflagration a été entendue à plus de 1500 km de là. On discute encore aujourd'hui de la nature de cet objet cosmique, mais l'hypothèse d'une comète a été avancée en 1978 par Lubor Kresak, l'un des astronomes dont j'ai parlé à propos de la découverte de 41P, qui pensait qu'il pouvait s'agir d'un morceau détaché de la comète périodique 2P. Des études plus récentes, en 2007, basées sur l'étude des fragments retrouvés, l'apparenteraient plutôt à une autre comète, 97P ou un astéroïde. Ce n'est pas forcément contradictoire, car la distinction entre les deux types de petits corps n'est pas absolue. On sait maintenant que certains astéroïdes sont en fait des comètes éteintes, hein, si je peux dire, c'est-à-dire ne produisant plus de chevelure ni de queue.
Mais quelle est la différence entre les deux, Michel ?
Alors pour faire simple, les astéroïdes sont comme des gros rochers qui pour la plupart orbitent dans le système solaire entre Mars et Jupiter. Ils correspondent à un stade de formation des planètes par accrétion, sauf qu'à cet endroit, l'influence gravitationnelle de l'énorme Jupiter les a empêchés de se regrouper pour former une planète supplémentaire. Les comètes, elles, se sont formées beaucoup plus loin du Soleil, bien au-delà de l'orbite de Neptune, dans une zone très froide. Elles contiennent donc de grandes quantités de glace. Pour se donner une idée de l'aspect de leur noyau, il faut revoir les photos prises par Rosetta de la comète Chury, des sortes de falaises et des gravières parsemées de trous formés par l'éjection de la vapeur d'eau contenue dans le sous-sol quand la comète se réchauffe à l'approche du Soleil. Et c'est de là que vient la différence d'aspect dans le ciel. Les astéroïdes découverts au XIXe siècle, en recherchant une éventuelle planète inconnue entre Mars et Jupiter, n'apparaissent que comme des minuscules points brillants se déplaçant au milieu des étoiles, d'où leur nom qui veut dire « en forme d'étoile ». Le mot comète, lui, vient du grec « okometes », c'est-à-dire « astre chevelu », car elles apparaissent dans le ciel comme une longue traînée, leur queue, parfois visible à l'œil nu, alors que leur minuscule noyau demeure invisible comme pour un astéroïde. Les comètes sont connues depuis l'Antiquité, mais s'agissant d'une apparition imprévisible et temporaire dans le ciel, Aristote pensait qu'il s'agissait d'un phénomène atmosphérique. Les pythagoriciens pensaient, eux, que c'était des planètes rarement visibles, et cette hypothèse cosmique s'est imposée à la Renaissance quand on a constaté que la queue d'une comète est toujours dirigée à l'opposé du Soleil, quel que soit le sens du déplacement de la comète dans le ciel. Selon les croyances, elles étaient vues comme des présages, soit favorables, mais plus souvent néfastes. Par exemple, la comète de 1066, représentée sur la tapisserie de Bayeux, avait été considérée comme un mauvais présage pour le roi anglais Harold II, qui venait d'accéder au trône. Et effectivement, il a trouvé la mort peu après dans la bataille de Hastings, qui a ouvert la porte de l'Angleterre à Guillaume le Conquérant. Donc on pourrait dire que pour Guillaume, c'était plutôt un signe favorable, la comète. Une autre comète célèbre est représentée par le peintre italien Giotto pour figurer la fameuse étoile de Bethléem sur une fresque de la Nativité, car il avait observé lui-même une comète en 1301. Ce qui est remarquable dans ces deux exemples, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'il s'agit en fait de la même comète, la fameuse comète de Halley. En effet, Sir Edmund Halley a recensé en 1705, 24 passages de comètes entre 1337 et 1698, ce qui lui a permis de découvrir que certains correspondaient au retour régulier de la même comète tous les 76 ans, 1531, 1607 et 1682. Il prédit donc que cette comète devrait revenir vers Noël 1758 et donner la région du ciel où il faudrait la rechercher. Malheureusement, il est mort 15 ans trop tôt, en 1742, pour savoir si sa théorie était exacte. Mais il avait vu juste, car le 25 décembre 1758, à l'endroit prévu, elle a été retrouvée par l'astronome allemand Johann Georg Palitzsch. Pour rendre hommage à Halley pour cet exploit, on donna son nom à cette comète, et on retrouve aujourd'hui dans les archives historiques qu'elle a été régulièrement vue depuis l'Antiquité, probablement depuis 611 avant Jésus-Christ, selon des annales chinoises.
On donne toujours le nom du découvreur à la comète, donc.
Alors, pas tout à fait. Les comètes portent des numéros, comme les astéroïdes dont j'avais expliqué l'immatriculation sur cette antenne la dernière fois. Dans le répertoire du MPC, les comètes découvertes récemment portent des numéros comme C2017A1 ou P2017B4. Hein, ce sont des vrais exemples que j'ai pris dans le catalogue. Comme les auditeurs fidèles le remarqueront peut-être, cela ressemble un peu à l'immatriculation des astéroïdes avec l'année de la découverte, une lettre indiquant la quinzaine dans l'année et un numéro d'ordre de la découverte dans la semaine. Dans la quinzaine, pardon. Les exemples montrent donc qu'on en découvre souvent plusieurs par mois. La différence vient de la première lettre qui permet de faire la distinction avec les astéroïdes, généralement un C comme comète, mais parfois un P quand la trajectoire calculée par le MPC indique que c'est une comète périodique. Après le numéro, on accole un ou plusieurs noms. Contrairement aux astéroïdes où c'est le découvreur qui peut proposer un nom de baptême, mais pas le sien, les comètes prennent automatiquement depuis Halley le nom du ou des inventeurs. On dit inventeur comme en archéologie pour un trésor. Malheureusement, comme la plupart sont découvertes par des systèmes automatiques de recherche d'astéroïdes, ce sont souvent des sigles barbares comme Pan-STAR, les deux exemples que j'ai donnés tout à l'heure, ou LINEAR. Mais il arrive encore qu'un astronome amateur soit le premier, surtout quand il cherche dans des régions de ciel différentes des systèmes automatiques. Par exemple, C2017E4 porte le joli nom de Lovejoy, qui vient de Terry Lovejoy, un chasseur de comètes australien, qui en est déjà à sa sixième découverte depuis 2007. On peut remarquer que la comète 41P dont j'ai parlé parce qu'elle est visible en ce moment dans le ciel n'obéit pas à ce système de numérotation, car pour les comètes périodiques dont on a déjà observé au moins un retour, elles sont renumérotées dans l'ordre de leur découverte suivie de P. De 1P, la fameuse comète de Halley, 2P découverte en 1786 par l'astronome français Pierre Méchain, jusqu'à la dernière dans le catalogue qui s'appelle 350P, découverte en novembre 2009 et qui nous est revenue cette année. À noter que son nom est elle porte le nom de son découvreur Robert Marknow, un autre astronome australien, chasseur d'astéroïdes, il en a trouvé 480 en 30 ans, et de comètes, il en a trouvé 16, dont une célèbre, elle s'appelle C2006P1, qui avait été très bien visible à l'œil nu en janvier 2007, et surtout dans l'hémisphère sud où le spectacle a vraiment été grandiose. On peut trouver sur Internet des photos spectaculaires.
Mais à part les observer depuis la Terre, on leur envoie aussi des sondes comme Rosetta?
Oui, alors en effet, mais les premières missions consistaient à partir à la rencontre de la comète qu'on croisait très vite. Hein. Contrairement à Rosetta qui accompagnait la comète, donc 67P, je vais dire pour une fois son nom en entier, même si c'est pas facile, Churyumov-Gerasimenko, pendant 2 ans, d'août 2014 à septembre 2016. La première sonde envoyée en 1986 vers la comète de Halley était européenne et baptisée Giotto, du nom du peintre dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. C'est la première fois qu'on photographie un noyau cométaire de près, avec les dégazages formant comme de grands panaches de vapeur et de poussière. Mais très vite, hein, car le croisement s'est fait à environ 250 000 km/h et à 600 km de distance. Parmi les missions suivantes, les plus intéressantes me semblent être Stardust de la NASA, lancée en 1999, qui a recueilli avec une sorte de raquette des particules éjectées par la comète 81P Wild qu'elle a survolée en 2004 pour ramener ses échantillons sur Terre en 2006. Puis Deep Impact, aussi de la NASA, lancée en 2005 à la rencontre de la comète Temple 1 sur laquelle elle a envoyé un impacteur de 400 kg pour pouvoir analyser le panache éjecté afin de mieux connaître la composition du noyau. Et bien sûr, la fameuse Rosetta qui, après un long voyage de près de 10 ans, a pu rattraper 67P pour s'y placer en orbite et l'observer pendant son approche du Soleil. Et même si le petit atterrisseur Philae n'a pas concrétisé tous les espoirs qu'on avait mis en lui, cette mission a permis une énorme moisson de données et de photos qui seront étudiées encore pendant des années. Toutes ces observations ont confirmé les hypothèses sur l'évolution des comètes. Ces petits corps très froids, dont le réservoir est situé très loin du Soleil, on pense qu'il y a au moins 1 milliard de noyaux cométaires par là-bas, sont parfois éjectés vers l'intérieur du système solaire. Au fur et à mesure de son approche, la comète se réchauffe, ce qui provoque la sublimation de sa glace en vapeur d'eau, donc l'activation de plus en plus intense de sortes de geysers qui emportent aussi les matériaux de surface, poussière et gravier. C'est toute cette matière éjectée qui va former la chevelure, puis la queue qui s'allonge dans l'espace sous l'effet du vent solaire, souvent sur des millions de kilomètres. En fait, il y a 2 queues, on le voit bien sur certaines photos, l'une de gaz, ou plutôt de plasma, poussée à l'opposé du Soleil par ce vent solaire et qui apparaît bleutée sur les images. L'autre, légèrement décalée, car composée d'éléments plus denses sur lesquels le vent solaire a un effet moins fort, elle est appelée queue de poussière et apparaît plutôt blanche sur les images. Ce mécanisme a été bien révélé par les sondes qui nous ont aussi beaucoup appris sur la composition du noyau. Il faut se méfier de ce qu'on voit sur les images, par exemple de Rosetta, car elle ressemble à des photos de la surface de la Lune, un petit peu. Tout d'abord, on croit voir des rochers, mais la densité n'est pas du tout comparable. De l'ordre de 1,5, 0,5 pour 67P, donc cette comète flotterait si on la posait sur l'eau. La surface paraît claire alors qu'elle est très sombre en réalité, mais la luminosité des photos est forcée pour mieux voir les détails. Alors qu'on pensait que les régions très froides où les noyaux cométaires se sont formés étaient peu propices aux réactions chimiques, on sait maintenant que c'est sous l'effet du rayonnement solaire, notamment ultraviolet, que des molécules simples sont cassées et leurs composants se recombinent jusqu'à la création de molécules carbonées complexes, par exemple de la glycine. C'est pour cela qu'on s'intéresse tant aux comètes. D'une part, ce sont des sortes de fossiles qui nous permettent d'avoir des informations sur la formation du système solaire et donc des planètes. Et d'autre part, avec leur glace et ses composés organiques qu'elles ont apportés sur Terre à l'époque des grands bombardements des planètes, elles ont certainement joué un rôle très important pour l'apparition de nos océans et bien sûr de la vie sur Terre.
Allez, le ciel du mois et pour commencer, voûte céleste, constellation.
Alors avec le changement d'heure le week-end dernier, il faut veiller plus tard maintenant pour observer le ciel étoilé. En ce moment, le soleil se couche vers 20h30 et la nuit noire survient vers 21h30. Fin avril, ce sera vers 22h15. Pour les constellations, le plus simple est de consulter, hein, comme je le dis chaque mois, les cartes que nous mettons en ligne sur notre site web. En début de nuit, le ciel de l'hiver a déjà commencé à basculer vers l'ouest pour se coucher, à l'image de sa constellation centrale, Orion, qui est déjà au sud-ouest. Et de manière symétrique, le ciel de printemps émerge avec l'une de ses principales constellations, le Lion, déjà bien haut au sud-est. Fin avril, le Lion sera déjà plein sud en début de nuit noire. Pour se situer dans ce ciel de printemps, il y a deux repères principaux. D'une part, les étoiles de la crinière du Lion forment comme une faucille ou un point d'interrogation inversé sous les pattes de la Grande Ourse. Une fois trouvé ce motif, on peut facilement dessiner la constellation avec deux étoiles pour la gueule en avant et le corps vaguement rectangulaire prolongé par la queue. Le dessin complet ajoute aussi des pattes à l'avant et à l'arrière. L'autre repère est un alignement. Si on prolonge la courbe de la queue de la Grande Ourse, donc de la casserole, on tombe sur une étoile très brillante, appelée Arcturus, puis une un peu moins forte qui s'appelle Spica, dans la constellation de la Vierge, et la Vierge se déploie comme un grand Y vers la queue du Lion. Actuellement, la planète Jupiter très brillante est proche de Spica dans le ciel. À partir d'Arcturus, la constellation du Bouvier, à laquelle elle appartient, se dessine comme un grand cornet triangulaire, dont Arcturus est la pointe, avec une sorte de boule de glace à l'autre bout. On a l'habitude de dire que c'est comme un cornet de glace. Alors une petite remarque sur ces deux noms, l'ours Arctos en grec a donné Arcturus, qu'on surnomme le montreur d'ours, car elle semble pousser l'ours devant elle dans le ciel. Alors que le Bouvier, le nom de la constellation, vient de la représentation romaine de la charrue, à la place de notre casserole, tirée par des bœufs et donc guidée par un bouvier. Arcturus est la quatrième étoile la plus brillante du ciel. Mais comme les deuxième et troisième ne sont pas visibles sous nos latitudes, pour nous, c'est la deuxième, juste après Sirius. Et il se trouve qu'en ce moment, on peut voir simultanément ces deux étoiles dans le ciel, Sirius vers l'ouest allant se coucher avec Orion, pendant qu'Arcturus se lève vers l'est.
Toujours le ciel du mois, les planètes.
Alors en ce moment, Vénus et Mercure sont trop voisines du Soleil dans le ciel pour qu'on puisse les observer. Il y a encore Mars qu'on peut apercevoir vers l'ouest avant son coucher, c'est vers 23h30 en ce moment, mais il n'est pas très brillant, car on s'est beaucoup éloigné de lui ces derniers mois. La vedette, c'est sans conteste Jupiter, très brillante à l'est en début de nuit. Pour l'observer, il vaut mieux la laisser monter un peu dans le ciel, plus tard dans la nuit, par exemple vers minuit, ou plus tard dans le mois, ce sera de plus en plus tôt qu'elle se lèvera. Avec une paire de jumelles, on ne peut voir aucun détail à sa surface, mais en stabilisant, par exemple en s'appuyant les coudes, ou mieux en fixant les jumelles sur un trépied, on peut observer ses satellites les plus brillants, jusqu'à 4, comme des petites étoiles alignées. Ils sont appelés galiléens, car découverts par Galilée il y a 400 ans. Leur position varie en quelques dizaines de minutes. Dans un télescope, par exemple avec AG33 à SOCATS, si des auditeurs ont l'occasion d'y aller, on verra facilement des détails dans l'atmosphère de Jupiter et parfois le passage d'un satellite devant le disque de la planète ou la projection de son ombre. Beaucoup moins brillante, Saturne est de retour dans le ciel du matin en se levant vers 3 heures en ce moment, mais plus tôt dans les prochaines semaines, et ce sera vers 1 heure à la fin avril. Dans de simples jumelles, on ne peut pas distinguer ces anneaux car cela nécessite un grossissement bien plus fort. Et pour finir, comme tous les mois, les conjonctions de ces planètes avec la Lune. Ce soir, 30 mars, le fin croissant de Lune sera près de Mars. Lundi, 10 avril, la grosse Lune gibbeuse presque pleine sera tout à côté de Jupiter dès le soir, à environ 2 degrés, soit la largeur d'un doigt à bras tendu. Et une semaine plus tard, le lundi 17, le matin à partir de 2 heures, la lune gibbeuse, un peu plus grosse qu'un quartier, se lèvera près de Saturne. Et bien sûr, dans les choses à observer ce mois, il y a la fameuse petite comète 41P dont j'ai parlé tout à l'heure et pour laquelle on trouvera les cartes sur notre site web.
Voilà, merci Michel. Voilà, malheureusement on n'a plus le temps, mais on mettra toutes les infos à constellationsetgalaxies.org. Encore félicitations pour le concours.
Merci.
On mettra quelques photos sur le Facebook. En tout cas, merci Michel.